Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo, effectivement, avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, bien évidemment, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Et dans ce numéro de ce lundi 2 septembre, les Jeux paralympiques de Paris qui entrent dans leur dernière semaine, les qualifications de la Ligue des champions féminines zone UNAF, bien sûr, les sélections africaines pour les prochaines journées de qualification à la CAN 2025 et le Mondial des moins de 20 ans. Chez les dames, pour en parler avec nous, comme d'habitude, Élisée Mpatin depuis Boïcon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue à Boïcon au Bénin.
Merci Jules Valentin Goué, nous rejoint depuis Douala au Cameroun. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bienvenue à Douala au Cameroun.
Bien sûr, Douala ou Garoua ou encore Yaoundé, vous l'aurez compris, on parlera justement de ce match à venir et qui n'a pas encore de stade retenu. Amine Birouk, lui, est en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir les amis.
Bonsoir à tous et nous retrouvons Amdine Si à Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Merci à tous de votre présence et à vous chers auditeurs de rester à l'écoute. C'est la dernière semaine des Jeux paralympiques à Paris, bien sûr. L'Afrique s'en tire tant bien que mal pour l'instant. Amine, il y avait entre autres du cécifoot ce lundi, disons, et le Maroc s'est imposé devant le Japon 1-0 après un match nul. Hier, bien sûr.
Ouais, après un premier match nul tout à fait face à l'Argentine 0-0, le Maroc champion d'Afrique en titre, et c'est avec ce privilège ou avec ce titre honorifique qu'il représente notre continent dans ce tournoi de cécifoot. Pour la deuxième sortie, il y a eu une victoire contre le Japon à l'arraché, à 4 minutes de la fin du temps réglementaire sur un but contre son camp d'un joueur japonais. Il faut dire que l'équipe du Maroc a raté beaucoup d'occasions de scorer. Il y a eu donc ce manque de réalisme, mais de l'autre côté, il y a une défense très solide qui a résisté aux quelques assauts désordonnés des joueurs japonais. C'est une belle victoire pour le Maroc qui se rapproche un peu plus des demi-finales. Il faudra assurer au moins le point du nul demain contre la Colombie pour pouvoir atteindre le dernier carré de la compétition et rééditer la performance de l'édition de Tokyo 2021 où le Maroc avait réussi à décrocher la médaille de bronze dans ses disciplines.
Amine, on reste toujours avec vous. C'est aussi passé hier pour le Maroc au lancer du poids F53 chez les hommes où l'or a été enlevé par Abdellila Ghani.
Ben écoutez, on a cru pendant de très nombreuses heures que ce serait une médaille d'or, mais c'est finalement une médaille d'argent. Il faut dire que la délégation marocaine avait déposé une réclamation après un lancer du candidat géorgien qui avait réussi 9,66 m. Et visiblement, la première décision avait donné raison à la délégation marocaine. Et donc, Ghani était décrété et déclaré champion paralympique de cette spécialité en parathlétisme, avec notamment le record du monde. Mais un recours des Géorgiens leur a permis de faire volte-face ou a permis, je dirais, aux Géorgiens de retrouver leur médaille d'or. Et c'est donc sur la deuxième marche du podium que Ghani est monté. D'ailleurs, le butin de la délégation marocaine est beaucoup plus intéressant que celui des valides qui avaient participé aux JO de Paris, puisque pour l'instant, le royaume chérifien totalise 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze, en attendant mieux d'ici le 7 septembre prochain.
On attend mieux pour toute l'Afrique. Élisée, l'Afrique dans son ensemble a brillé quand même hier.
Et bien évidemment, il faut le dire, puisque après, avant de parler de ce Marocain gagné, eh bien, l'Afrique a pu décrocher 2 médailles d'or au niveau des 100 mètres en athlétisme avec bien évidemment le Sud-Africain Mlongo en T44, puis après l'Algérien Jamil Amnari en T33. Donc vous imaginez, l'Afrique est en train de faire de très belles choses actuellement du côté de Paris, même si au niveau des Jeux Olympiques, on a vu que l'Afrique a connu quelques difficultés, même si l'Afrique a fait mieux à l'élection présidente. On sent cette fois que au niveau des Paralympiques, l'Afrique se donne corps et âme. Même aujourd'hui, il y a eu deux médailles décrochées par le continent, notamment l'argent par le Tunisien Walid Kita en 100 mètres T34 chez les hommes. Au niveau des femmes, le 500 mètres T11 a été c'est la Sud-Africaine Luzane Kotze qui a remporté la médaille de bronze. Vous imaginez, il ne se passe pas une journée où l'Afrique ne décroche pas une médaille depuis la deuxième journée. Donc, vous imaginez, donc l'Afrique s'est bien préparée, en train de faire quand même une très bonne figure, hein, en attendant le bilan final. Et jusque-là, l'Algérie est en tête au niveau des médailles quand nous allons prendre le continent tout entier. Eh bien, l'Algérie est en tête avec deux médailles d'or. C'est quand même très important, il faut le dire. Puis la Tunisie suit aussi avec deux médailles d'or. Et après, en tout cas, Amin Birouk, il faut le dire, qu'on attend la première médaille d'or du Maroc, puisque jusque-là, le Maroc a déjà engrangé pas mal de médailles d'argent et de bronze, mais il manque toujours la médaille d'or. L'Éthiopie aussi s'est illustrée en remportant deux médailles d'or. En tout cas, la moisson n'est pas mal du côté de l'Afrique. On espère vivement que les Paralympiques feront mieux que les athlètes au niveau des Jeux Olympiques.
Du football à présent avec les qualifiés pour la prochaine Ligue des champions féminines de la CAF, bien sûr. Amine, les Marocains de l'ASFA ont décroché le seul ticket de la zone UNAF grâce à leur victoire 1-0 sur les Égyptiennes de Toutankhamon.
Et surtout grâce à leurs trois victoires consécutives dans ce quadriangulaire qui réunissait, outre l'ASFA, l'équipe du pays organisateur, l'Algérie, Akbo, les Tunisiennes de Sousse et les Égyptiennes de Toutankhamon. Il faut dire aussi que le parcours de l'ASFA a été limpide, sans faute. Une victoire face aux Algériennes d'Akbo 4-0. Un succès encore plus grand contre les Tunisiennes de Sousse 5-0. Les Égyptiennes avaient aussi remporté leurs deux précédents matchs. C'était donc une finale vendredi sur la pelouse du stade de Rouiba à Alger, dans la banlieue algéroise. Et ce sont les Marocaines, plus expérimentées, plus rodées, plus combatives aussi, qui l'ont emporté sur le score d'un but à zéro, but de Najat Bedri à la demi-heure de jeu. Il faut dire que les Égyptiennes se sont renforcées avec des incorporations venues d'Afrique du Sud, du Nigeria, dans l'espoir d'ailleurs de remporter ce trophée et par ricochet de se retrouver pour la première fois de l'histoire du football égyptien par le biais des qualifications dans cette Champions League. Mais visiblement, le football marocain au niveau des dames a une marge par rapport à ses homologues algériens, tunisiens, égyptiens. Ça a été le cas, même si l'ASFAR a perdu depuis quelques mois à l'intersaison trois de ses piliers qui sont partis s'expatrier dans le championnat espagnol. Rizlan Chebbek, Fatima Tegnaout, meilleure joueuse africaine 2024, et Hanane Iklhaj. Ce sont trois internationales qui font partie des plans du sélectionneur Jorge Vilda et qui étaient de la dernière Coupe du Monde. Mais visiblement, le métier est toujours militaire et les militaires marocaines, championnes africaines 2022, seront là pour pouvoir tenir le rang. Elle qui avait terminé troisième de la dernière édition en Côte d'Ivoire.
Elle, bien sûr, qui avait été sacrée aussi en 2022. Elle rejoint ainsi les Sénégalaises des Aigles de la Médina, les Nigérianes d'Edo Queens, les Congolaises du tout-puissant Mazembe et les Éthiopiennes de Commercial Bank, ainsi que les Sud-Africaines de l'Université du Cap Occidental, Amdinsi. C'est un tableau bien fourni pour cette Ligue des champions féminines.
Oui, c'est un tableau bien fourni. Hein. On avait vu que l'année dernière, cette Ligue africaine des champions vertueux dames a été vraiment une belle compétition. Cette année également, je pense que le niveau sera encore plus relevé. En tout cas, je suis en train d'admirer cette compétition, surtout que pour la première fois de l'histoire, une équipe sénégalaise que je vais nommer les Aigles de la Médina vont participer pour la première fois de l'histoire à cette compétition. Ça se voit que le football féminin au niveau africain est en train quand même de progresser lentement, mais sûrement, Yacouba.
Alors, Jules-Valentin Ngoué, peut-on dire que c'est la crème du foot africain, côté féminin bien sûr, en club, et qui est représentée dans ce tableau-là? Malheureusement, pas de club camerounais.
Oui, bien sûr, mais c'est que l'élite se renouvelle toujours. Il faut rester en forme tout le temps, il ne faut pas décrocher. C'est le cas, par exemple, du Cameroun, le cas aussi des nations comme le Ghana, la RDC qui revient maintenant avec un club, une grande institution comme le tout-puissant Mazembe, qui a compris qu'il faut travailler au niveau de l'organisation du football féminin. Et donc, c'est la crème actuelle qu'on retrouve là-bas. Et nous souhaitons que très bientôt, d'autres équipes se battent pour essayer de prendre leur place à la tribune d'honneur.
Il reste encore à désigner le pays qui va abriter cette 4e édition de la phase finale de la Ligue des champions féminines africaines. Et ce sera le 10 octobre prochain à Kinshasa. Autre compétition, celle des éliminatoires de la prochaine CAN Maroc 2025, dont le coup d'envoi des qualifications débute ce mercredi 4 septembre. 48 sélections réparties en 12 groupes de 4 équipes y participent. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour la phase finale prévue. Je le rappelle, de décembre 2021 à janvier 2025, entre autres rencontres attendues, Amine Birouk, le Maroc reçoit le Gabon le 6 septembre.
Déjà pour rectifier, c'est de décembre 2025 à janvier 2026.
Donc merci beaucoup pour la rectification. Pour décembre 2024, c'est à côté. Merci Amine.
Donc, le Maroc affronte le Gabon. Pour le Maroc, c'est une phase de préparation, mais ça n'implique pas qu'on prenne la rencontre à la légère, car la dernière confrontation entre les deux sélections s'était soldée par un match nul de but partout. C'était à la CAN au Cameroun. Les Walid Regragui a reconduit l'essentiel de ses troupes, en tout cas celles qui ont disputé les deux derniers matchs éliminatoires de la Coupe du Monde à Agadir. Et ce sera d'ailleurs à Agadir que les deux sélections se retrouvent. Donc sur les 26 appelés, 22 faisaient partie déjà de la précédente liste. Il y a 4 incorporations, dont 3 retours, et surtout la convocation du jeune Adam Aznou pour la première fois. C'est un latéral gauche formé au FC Barcelone de 17 ans qui, en ce moment, porte les couleurs du Bayern de Munich. Il a fait la préparation avec l'équipe première, c'est un peu pour redécouvrir le groupe. Les joueurs sont déjà sur place à Mamora pour la préparation et certains ont déjà fait leur preuve depuis le début des championnats européens, y compris le meilleur buteur de la dernière édition de la Conference League, Ayoub Kabi, auteur d'ailleurs ce week-end d'un doublé avec son club de l'Olympiakos le Pirée. Donc cette équipe du Maroc affronte avec beaucoup de sérénité le Gabon. Il est vrai que les 3 fenêtres FIFA de septembre, d'octobre et de novembre serviront de test avant de rentrer dans le vif du sujet avec la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde et surtout la préparation pour la CAN. Manque à l'appel le capitaine Romain Saïs en difficulté avec son club Qatari décède. Par contre, 2 joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu et qui étaient déclarés persona non grata dans leur club sont de la partie. Naïf Eger, transféré depuis ou prêté depuis par West Ham à la Real Sociedad, et surtout Hasdine Ounahi, en difficulté à l'Olympique de Marseille et qui cherche une porte de sortie via un championnat mineur comme celui de Turquie ou de Grèce.
Jules, une fois de plus, les Panthères pourront compter justement pour contrer cette équipe marocaine sur leur capitaine, entre autres, Pierre-Emerick Aubameyang. Jules Valentin.
Oui, bien sûr. Les Panthères sont généralement très performantes lorsqu'elles rencontrent le Maroc. Le Maroc, c'est un adversaire qui est connu depuis très longtemps et qui, et comme par hasard, même quand les Gabonais ne sont pas brillants sur le plan africain, ils posent toujours des problèmes à leurs adversaires marocains. Mais cette année, avec le retour en grâce de leur capitaine Aubameyang, on espère que le Gabon va profiter de cette première rencontre de haut niveau avec une équipe du Maroc qui a changé de catégorie totalement et qui est une référence mondiale maintenant, pour se remettre vraiment en selle et préparer les autres matchs difficiles qui l'attendent, notamment contre la Centrafrique, parce qu'on joue pour une seule place et les nations émergentes comme la Centrafrique ou comme même le Lesotho, qui est le petit pousset, peuvent poser des problèmes.
Toujours le 6 septembre, le Sénégal lui accueille le Burkina Faso dans le groupe D. Les étalons vont évoluer une fois de plus sans leur capitaine Bertrand Traoré. Pour le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé, le Burkina a une belle équipe, même si le Sénégal a les arguments pour faire face à cette formation. On l'écoute.
Comme je l'ai dit, c'est une très belle équipe. C'est une équipe qui est constituée de très bons joueurs, des joueurs qui jouent partout en Europe. Effectivement, la génération de Traoré est finie. C'est la génération qu'on avait joué les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 et puis ce fameux demi-finale de la CAN 2022. Et vous avez vu comment le match a été. Ça a été des matchs difficiles, âprement disputés, face à de très grands joueurs, de très grands techniciens. je n'attends pas moi contre le Burkina Faso en réalité vendredi ici. C'est pour cela qu'il est très 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 important pour nous de nous concentrer et de bien préparer cette rencontre-là, parce qu'il est important de rentrer dans ces éliminatoires-là en empochant les trois points déjà chez nous. Après, à l'extérieur, on verra. Mais le match contre le Burkina, il va falloir vraiment qu'on le prépare comme il faut. Comme je le dis, nous respectons le Burkina Faso. Maintenant, on a des arguments aussi pour aller au bout de cette rencontre-là. À nous de mettre tous ces ingrédients de notre côté pour pouvoir remporter le...
Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal. Alors, Amdine, Sénégal-Burkina Faso, c'est simplement un remake de la demi-finale de la CAN, Cameroun 2021, disputée en 2022.
Tout à fait, Yacouba. Les matchs Sénégal-Burkina ont été toujours serrés. Hein. C'est vrai que le Sénégal mène un peu si on regarde le nombre de victoires, mais ça a toujours été très serré. C'est pourquoi Aliou Cissé prend ce match très au sérieux. D'ailleurs, il a convoqué 26 Lyons et on note notamment le retour de Sadio Mané qui était absent lors des éliminatoires de la Coupe du Monde avec ce fameux match Sénégal-Congo. Les Léopards avaient tenu en échec les Lyons de la Teranga à Dakar au stade Abdoulaye Wade et ce match nul avait fait graisser des dents et Sadio Mané n'avait pas hésité à critiquer le système d'Aliou Cissé. Il revient dans le groupe. Il y a également un nouveau joueur qui arrive, Elhadj Mamadou Diouf. Il joue au Spartak de Prague qui a été éliminé par Lille lors des préliminaires de la Ligue des Champions en Europe. Ce sont peut-être les deux nouveautés de ces 26 jours, mais Aliou Cissé prend très au sérieux le Burkina Faso, qui est un adversaire très difficile à manœuvrer. D'ailleurs, les Lions ont effectuer leur premier galop d'entraînement tout à l'heure à Dakar au stade annexe du stade Abdoulaye Wade de Diagne-Niadio. Il avait 12 joueurs présents pour cette première séance d'entraînement, Yacouba.
Alors, Élysée, le Bénin entre en lice le 7 septembre face à qui? Le voisin géant nigérian dans ce duel, bien sûr, ouest-africain très attendu.
Très attendu, le match aura lieu à Ouyo et pour ce faire, eh bien, les Béninois ont déjà commencé la préparation aujourd'hui. Et il y a un groupe qui a rallié Cotonou et puis après, ils se sont envolés pour la Côte d'Ivoire avant de rejoindre le Nigeria puisque le second match contre la Libye va se jouer au stade Félix Houphouët-Boigny du côté de la Côte d'Ivoire, le stade qui porte bonheur aux Béninois puisque c'est là-bas que les Béninois ont engrangé deux victoires de suite lors des éliminatoires de la Coupe du Monde en battant respectivement le Rwanda 1-0 et puis le Nigeria 2-1. Les Nigériens sont revanchards et ils veulent en tout cas tout faire pour rendre la monnaie de la pièce aux Béninois puisque là, et ça c'est pour la première fois que le Bénin est parvenu à battre le Nigeria en match officiel, donc ça sent mal du côté de Ouyo, mais le sélectionneur Gernot Rohr, le franco-allemand, est vraiment conscient de l'enjeu et il a dit en conférence de presse, il faudra être fort mentalement, puisque quand le Nigeria joue à Ouyo, ça s'annonce très compliqué, donc pour cela il a fait appel à presque le même groupe qui a justement battu ce Nigeria, ce groupe qui a aligné deux victoires de suite avec des nouveaux venus, puisqu'on parlera de ce capitaine du club champion du Bénin, du FC Coton Souleymane Sika Bachirou qui a énormément d'expérience et le nouveau transfert du côté de la Côte d'Ivoire, Amoussou Romaric, ancien joueur de Coton mais qui a signé avec les Ivoiriens de la SEC d'Abidjan. Eh bien, donc il est très attendu puisque il a fait la même école que l'Ivoirien Adengra qu'on a connu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations puisque cet Ivoirien a été formé au Bénin à Abisport. Donc Amoussou Romaric a été formé dans la même école que Adengra, dont vous imaginez est très entendu du côté de Ouyo. Donc, ce sera un match très difficile. Et le Bénin, ça fait déjà deux CAN qu'il a raté, celle du Cameroun et puis la Côte d'Ivoire. Donc, il faudra tout faire pour être du côté du Maroc.
Et on espère bien que ça va passer pour les Béninois. Alors, Jules Valentin Ngoué, il y a ce match très attendu, Cameroun-Namibie, mais ce qui fait parler, c'est moins le match que le stade qui doit accueillir cette rencontre.
Bien sûr. Il faut dire que ce qui fait parler à l'heure actuelle, c'est un facteur d'environnement. Et jamais conflit qui oppose compétences, qui oppose à l'heure actuelle l'Africa Foot et le ministère de tutelle n'avait atteint ce degré. à tel point que nous sommes sur le, disons que un match, face à un match qui peut se transformer en un forfait. Pour la bonne raison que la FECAFOOT a localisé le match à Garoua et la CAF et la FIFA l'ont mis à leur programme. Mais par contre, le MINSA, lui, veut qu'on joue à Yaoundé et jusque-là, personne n'a cédé. Alors, ce qui fait que le Cameroun peut se retrouver avec un fonds des sanctions, ce qui n'est jamais arrivé dans ce pays, un grand pays de football, un pays admiré en Afrique pour généralement, disons que c'est à faire une union que l'objectif sportif est à atteindre.
J'espère.
C'est loin de cela. C'est temps que
la récréation. Gilles Valentin Ngoué, on espère bien sûr qu'il y aura une issue heureuse dans cette rencontre entre le Cameroun et la Namibie, pendant que beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest n'ont même pas un seul stade pour accueillir un match. Eh bien, du côté des Cameroun, ça discute bien sûr concernant l'endroit où il faut jouer une rencontre. C'est aussi ça le foot. Ne bougez pas, vous suivez Sporama, suivez Ouafrique. On revient dans quelques secondes. Nous revenons sur le foot féminin pour parler du mondial féminin des moins de 20 ans qui se joue en Colombie. 4 pays représentent le continent, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria et le Maroc. Amine Birouk, premier match perdu par le Maroc, 0-2 devant le Paraguay.
Devant le Paraguay, devant l'impact physique des joueurs paraguayens. Et pourtant, l'équipe du Maroc n'a pas démérité, s'est procurée de franches occasions, notamment un centre tir sur la barre transversale à 0-0. Mais elle a été condamnée par deux erreurs fatales. Sa gardienne but, qui a 17 ans, Fatem Zahra Jebraoui, avec un premier but à la 37e minute et un second signé Fatema Galvez, également depuis le point de pénalty à l'heure de jeu quasiment. Cette défaite hypothèque les chances de l'équipe du Maroc dans la mesure où elle se trouve dans un groupe très compliqué et c'était une finalissime contre le Paraguay. Les prochains adversaires du Maroc, et non des moindres, sont les États-Unis dans la nuit de mercredi à jeudi et surtout l'Espagne, champion du monde U17. Et U19. Donc, ce sera une mission presque impossible pour les joueuses drivées pendant cette compétition par Jorge Vilda, qui aura le privilège de retrouver son pays d'origine lors d'une confrontation fratricide. Mais ce qui est certain, c'est que ces joueuses sont en apprentissage et il ne faudra pas les blâmer si elles retournent fanées au pays, parce que le Maroc est en train d'énormément œuvrer pour le développement du football féminin et ça devrait porter ses fruits très prochainement.
On espère bien pour le Maroc et l'Afrique. Alors, Élysée, le Ghana lui affronte l'Autriche cette nuit, tandis que le Nigeria va lui faire surface mercredi après sa victoire d'entrée 1-0 devant la Corée du Sud.
Et bien évidemment, et il faut dire que l'Autriche, c'est quand même une très belle nation en matière de football féminin et quand il s'agit des catégories d'âge, le Ghana a commencé par se mettre à niveau un tout petit peu puisqu'au début, on a vu que le Ghana n'était pas très loin. Le Ghana n'était pas très loin du Nigeria avec la République démocratique du Congo. Mais depuis un certain moment, eh bien, le Ghana a complètement décroché. On a vu aujourd'hui l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale et même le Maroc qui est en train d'abattre un travail remarquable au niveau du football féminin aujourd'hui. Sur le continent, il faut voir le Maroc et l'Afrique du Sud, ces deux pays se sont complètement décalés. Donc, le Ghana a du pain sur la planche et il faudra quand même être fort mentalement afin d'aller chercher. En tout cas, les 4 représentants africains doivent augmenter le niveau de leur jeu, puisque le Cameroun aussi a...
Justement, Élysée, parlant du Cameroun, on va essayer de retrouver tout de suite Jules Valentin Ngoué, le Cameroun qui a arraché le match nul, 2-2 face au Mexique samedi, et le Cameroun qui va affronter dans la nuit de mardi à mercredi la Colombie, le pays hôte. Jules, très rapidement.
Oui, c'est le scénario de la rencontre contre le Mexique qui valorise en fait la prestation camerounaise dans la mesure où les Lions ont été menés d'entrée de jeu à la 3e minute et même à la mi-temps par 2-0 avec le but du break des Mexicaines qui sont en très grand progrès. Mais en deuxième mi-temps, l'équipe camerounaise s'est reprise. Elle a pris le match à son compte et son joueur et sa joueuse vedette Naomi Eto, excusez du peu, a donc pu ramener l'équipe à flot et finalement obtenu l'égalisation à la 85e minute. Et donc, c'est dire que c'est une remontada qui permet de dire que même si c'est un seul point qui a été pris,
Et selon l'entraîneur camerounais, il faut se,
merci beaucoup.
Il faut se féliciter.
Merci beaucoup, Jules Valentin Gouet. C'est ici que se referme cette édition de Sporama. Comment il s'appelle encore? John Lindon, bien sûr, est en studio pour la troisième et dernière édition du journal de ce jour. Je vous souhaite une bonne